Quand, écoutez, ceux qui sont assez vieux pour s'en souvenir, là, quand l'Union soviétique c'était une force importante dans le monde, ben, l'univers de la fiction n'hésitait pas à mettre en scène des soviétiques. Et souvent, dans le rôle des méchants. Par exemple, il y a combien de films d'espionnage qui ont mis en scène le KGB? Un autre exemple là, qui a frappé les gens de ma génération, le film L'Aube rouge, Red Dawn, où l'URSS envahissait les États-Unis. Vous remarquez qu'il n'y a pas beaucoup de films qui dépeignent la Chine, même en fiction, sous un mauvais jour. Ben oui, parce que Hollywood n'ose pas froisser la Chine. Le New York Times en parlait samedi. Il y avait une critique fort intéressante du nouveau James Bond. C'était pas une critique, disons, cinématographique. C'était une critique géopolitique. Et parce que même si James Bond se promène partout dans le monde, ben, whoop, les Chinois ne sont jamais, disons, dans le rôle des méchants. Et Dieu sait que la dictature chinoise a des ambitions qui sont un peu méchantes parfois. On va parler de tout ça avec Guy Saint-Jacques. Il est l'ex-ambassadeur du Canada en Chine de 2012 à 2016. Monsieur Saint-Jacques, bonjour.
Bonjour, Monsieur Lagacé.
Il y a une autocensure à Hollywood et c'est pas nouveau face à la Chine.
Mais en fait, les Chinois doivent se féliciter qu'ils ont réussi à intimider les gens à Hollywood. Puis en fait, on n'a qu'à se rappeler aussi de l'autre incident qui avait impliqué la NBA après qu'un instructeur, un coach, ait fait une critique sur ce qui se passe en Chine. Puis tout de suite, le NBA a perdu des centaines de millions de dollars. C'est que la Chine peut être très brutale quand quelqu'un ose la critiquer sur quoi que ce soit. Et puis, tout ça doit nous porter à penser quoi d'autre que la Chine fait, puis où on exerce des contrôles, puis on se retient de parler de choses. C'est que je pense que ça soulève des questions très importantes là, sur la liberté d'expression, puis des sujets qu'on peut aborder, incluant dans les films.
Mais ce qu'on constate, là, c'est que la Chine n'aime pas quand elle est critiquée par des personnes à l'étranger, que ce soit des politiciens, des gens de la société civile. Mais même en fiction, on veut pas que la Chine soit dépeinte sous un mauvais jour. Qu'est-ce qui explique ça? Pourquoi la Chine est si sensible à ce qui se dit sur elle à l'étranger?
Ben moi, je pense que tout ça, ça reflète un grand sens d'insécurité. Puis là, la Chine, quand on parle avec les Chinois, puis le président Xi Jinping lui-même sort ça tout le temps, que la Chine a vécu un siècle d'humiliation. Là, ça a commencé avec la guerre d'opium, puis se sont fait imposer des concessions étrangères. Puis là, maintenant, ils sont en train de retrouver leur place. Puis ce que les leaders chinois craignent, c'est si on se met à critiquer la Chine, ou à rire de peut-être certains côtés, ça va remettre en question le leadership du Parti communiste. Et puis, pour eux, c'est une définition qui est très large. Un autre exemple de ça, c'est qu'ils refusent de collaborer pleinement avec l'Organisation mondiale de la santé parce qu'ils risqueraient d'avoir l'air fou, d'avoir mal géré le début de la pandémie. Et donc, tout ça pourrait remettre en cause la légitimité du parti. Puis aussi, il faut dire du côté de la culture, en Chine même, la Chine est en train de mettre des contrôles beaucoup plus sévères parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils étaient en train de perdre le contrôle un peu là, sur l'idéologie, puis sur ce que les jeunes pensaient, parce qu'ils trouvaient que les vedettes de cinéma puis les influenceurs prenaient trop de place.
Mais monsieur Saint-Jacques, vous êtes un spécialiste des relations internationales, là. Y a-t-il déjà un autre pays de mémoire d'homme comme ça qui a été aussi, je dirais, non seulement sensible face aux critiques, même en fiction, mais qui prenait des mesures pour punir des pays puis des compagnies quand on se moquait d'elles ou quand on les critiquait?
Je pense que non. Puis là, la Chine peut se permettre de le faire parce que ils sont venus à la conclusion qu'on dépend tellement du marché chinois. Puis c'est clair aussi quand on regarde du côté sportif, les Chinois aiment beaucoup le basketball. C'est que c'est pour ça que l'incident avec les NBA, là, ça avait soulevé beaucoup de questions puis de réflexions au sein de cette association-là. Puis du côté du cinéma, ben avec une classe moyenne qui grandit, où il y a maintenant plusieurs centaines de millions de personnes, en théorie, c'est un marché qui est plus important que le marché américain. C'est donc pour toutes les majors, les grandes compagnies de production américaines, d'avoir une partie de ce marché-là, c'est important. Puis d'autant plus que la Chine limite le nombre de films étrangers qui vont pouvoir être distribués en Chine. C'est que donc, on sait qu'on n'aura pas beaucoup de chance, puis on veut s'assurer qu'on va avoir des gros succès. Mais là, encore là, ben c'est ça. La Chine doit se féliciter d'avoir convaincu tout le monde d'exercer de l'autocensure.
Parce que les conséquences, vous parlez de la NBA, ça c'est un cas qui a fait école. Le directeur général des Rockets de Houston a envoyé un tweet, un simple tweet, pour appuyer les militants pro-démocratie à Hong Kong. Écoutez, tout ce qui était les maillots d'équipe, par exemple, sur les sites transactionnels en Chine, sont disparus. Il y a des matchs qui ont été retirés de la télévision. La NBA, vous l'avez dit, a perdu des centaines de millions. Ça a porté fruit parce qu'il n'y a plus personne dans la NBA qui fait de messages sur la Chine, mais aussi, ça envoie un message à tous ceux qui seraient tentés de la critiquer.
Ben oui, puis, en fait, c'est ça, c'est un peu effrayant parce que là... Puis moi, je vois ça aussi dans d'autres domaines. La Chine consacre beaucoup d'efforts pour essayer de polir son image à l'étranger. Puis là, bien sûr, ils ont eu de grands défis parce qu'on connaît beaucoup mieux qu'est-ce qui se passe en Chine. On sait qu'il y a, malgré toutes les tentatives pour cacher cette histoire-là, on sait qu'il y a un génocide qui est en cours au Xinjiang. On sait qu'ils sont en train de faire disparaître la démocratie à Hong Kong malgré les engagements qu'ils avaient pris dans un accord avec les Britanniques pour protéger ça pendant 50 ans. On sait qu'ils sont en train de mettre de la pression sur Taïwan, qu'ils ont mal géré la crise de la COVID. Et c'est pour ça qu'ils veulent essayer de limiter les dégâts. Puis, j'ai vu ça aussi, moi, pour ce qui est des sujets qui sont discutés dans des universités canadiennes. Je pense que c'était l'an passé où ils avaient dit à l'Université Concordia, il y avait quelqu'un qui voulait organiser un débat sur la situation au Xinjiang, puis on dit, si vous allez de l'avant avec ça, on va dire aux étudiants chinois d'aller étudier ailleurs. Et donc, ils essaient de se mêler, d'empêcher le droit de parole sur les campus universitaires en menaçant les universités de représailles si... elles font pas un ménage dans les sujets qu'elles vont traiter. Ça, je pense que ça devrait nous... on devrait porter attention à ça parce que c'est une atteinte à des valeurs fondamentales pour nous, le droit d'expression, puis le droit de critiquer un pays qui a signé des accords internationaux, par exemple, pour protéger les droits de la personne, puis qui renie sa parole.
Merci beaucoup, Monsieur Saint-Jacques. Toujours un plaisir de vous parler, d'aborder la question très importante de la Chine avec vous.
Merci de votre invitation.
Merci, salut.
À la prochaine.
C'était Guy Saint-Jacques, l'ex-ambassadeur du Canada en Chine de 2012 à 2016. Juste une petite note en terminant. La Chine est tellement sensible, tellement frileuse, déteste tellement la critique qu'il y a des compagnies aériennes qui ont payé un prix. Par exemple, on leur a nié des droits d'atterrissage dans des aéroports chinois parce que des employés de la ligne aérienne avaient émis des critiques sur des médias sociaux à l'égard de la Chine.